Salut, ici Lucien Roy, spécialiste de l'accomplissement quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marilyn. Salut Marilyn.
Salut Lucien.
Donc, comme d'habitude, je vais vous dire rapidement pourquoi j'ai décidé d'inviter Marilyn, parce qu'on n'invite pas les invités d'interview pour rien. Donc, aujourd'hui, Marilyn, en fait, on s'est rencontrés encore une fois dans une rencontre d'entrepreneurs comme Cannes de la dernière interview. Et puis, en fait, on était chacun à un bout de la table, on mangeait, et puis on n'avait pas eu l'occasion de discuter. À la fin, je me suis dit, bon, bah, tiens, je n'ai pas discuté avec elle, je vais quand même aller voir. Et puis, en fait, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, Marilyn est écrivain, psychologue, spécialiste du burn-out. Et du coup, ça a beaucoup résonné avec les problématiques de mes clients, des gens que j'accompagne tous les jours. Et donc c'est un vrai plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et par où tu es passé pour en arriver jusque-là?
Oui, bonjour à tous. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, je suis consultante et coach pour les particuliers et des entreprises. Et pour rapidement, j'ai commencé en fait en formation comportementale. Puis assez rapidement, je suis partie dans l'univers de la communication. J'en ai fait pendant 10 ans. Et à un moment donné, j'ai fait un burn-out. Voilà, c'était, on va dire, qu'un enchaînement de plusieurs causes qui ont fait que j'en suis arrivée là. Et c'est vrai que c'est exactement ce qui m'a permis un petit peu de me reconnecter à l'univers de la psychologie. Voilà, d'avoir d'autres, on va dire, de comprendre mieux cette problématique de l'intérieur, justement, pour l'avoir vécu. Et c'est ce qui m'a conduit à écrire ce premier livre, « Comment sortir du burn-out ». Et voilà, où j'explique ce que c'est, comment on peut en sortir, et en fait, comment est-ce qu'il peut aussi transformer notre vie, en fait, être une source de changement intérieur. En fait.
Est-ce que tu peux, peut-être qu'on va commencer par le début, hein. On va bien sûr parler un petit peu de toutes ces étapes, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont finalement les premiers signes qu'on peut voir qu'on arrive vers le burn-out, et puis quelles sont aussi les conséquences qui peuvent arriver, parce que je trouve qu'on n'en parle pas forcément très souvent, mais les conséquences sont quand même assez désastreuses souvent.
C'est vrai, je pense qu'il faut être très attentif à soi, et parce que c'est assez insidieux, ça s'installe vraiment dans le temps. Et ça commence tout simplement par des problèmes avec le sommeil, la nourriture, on mange moins bien, les journées se rallongent de plus en plus, et même au niveau parfois des performances professionnelles, bien, on a plus de mal à être plus productif, parce que forcément, il y a une certaine fatigue qui s'installe, surtout psychologique, qui s'installe au fil du temps. Et parce que parfois on donne beaucoup de soi et on ne prend pas suffisamment le soin de faire attention à nos besoins aussi. Et c'est vrai que ce sont ces petits signes qui, mis bout en bout, nous montrent qu'il y a quelque chose auquel il faut vraiment porter une attention. C'est aussi les changements d'humeur qui peuvent voilà, être assez instables. Ce sont parfois des comportements auxquels avant on faisait moins attention et comment dire, par exemple, des choses auxquelles on était moins habitué à faire et que tout d'un coup, on se reconnaît plus trop dans le comportement qu'on a sur le moment. On devient peut-être pas plus aigri, mais c'est-à-dire plus irritable. C'est ça le mot que je cherchais, beaucoup
ouais,
plus
d'accord.
Dans une... voilà, les nerfs à fleur de peau. Voilà, plein de petits signes qui, mis bout en bout, devraient nous alerter qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être écouté, d'être entendu, en fait. La frustration, la colère. Voilà, c'est un ensemble d'émotions assez présentes, en fait.
C'est vrai qu'on dit souvent que finalement le burn-out, c'est le corps qui nous dit d'une manière un peu violente, bon, tu m'as pas écouté jusque-là, maintenant il est
c'est
temps
ça.
De le faire.
C'est
et,
ça.
Ouais.
C'est un peu comme si, voilà, il frappe à la fenêtre, il dit, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas bien, donc, je vais frapper à la porte puisque tu ne m'écoutes pas. Bon, finalement, je t'envoie un coup de tonnerre pour voir si tu te réveilles. C'est un peu ça.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est le moment où il y a beaucoup de personnes qui parfois ne peuvent même plus se lever le matin. Voilà, c'est vraiment une expression physique très importante. C'est vrai que. Ou par exemple, il y a d'autres personnes qui vont travailler et le matin, ils ont déjà la boule au ventre, des vertiges. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un inconfort tellement important qui se manifeste qu'on ne peut pas ne pas le voir. Mais parfois, voilà, la vie de tous les jours fait qu'on se dit non, mais c'est juste un coup de fatigue. On prend les choses souvent à la légère. Et il ne
Ouais.
faudrait pas, il faudrait en effet s'écouter plus.
Et justement, bah, souvent on prend les choses un peu légères aussi parce qu'on veut, on veut être fort un peu pour tout le monde, quoi. On veut être bon pour la famille, on veut être bon au travail, on veut bah, finalement essayer de contenter tout le monde dans tous les sens. Et puis comme tu dis, on s'oublie un peu. Et on va dire à l'extrême ou à un moment où tu vois, le burn-out a vraiment pris toute sa place, quelles sont bah, les conséquences que peuvent subir les gens auxquels ils s'attendent pas forcément, tu vois.
Je pense que les principales conséquences, en effet, c'est dans beaucoup des cas, beaucoup de personnes, c'est vraiment s'arrêter. Voilà, il va y avoir ce moment-là où de cette grosse remise en question. Parce que il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur physique, c'est-à-dire que le corps, lui, il est vraiment épuisé. Il faut aller regagner en vitalité, en force, redonner ses besoins de sommeil, d'une bonne nourriture, voilà, vraiment chérir ce corps qui a envie de dire stop, qu'il n'en peut plus. Et après, les conséquences psychologiques, c'est que il y a une perte de repères, une perte de sens, et donc ce qui fait que c'est un moment un peu où on va se sentir perdu, où on va se sentir replié sur soi, où on n'a pas forcément envie de recontacter le monde extérieur, parce que finalement, à tant avoir donné à ce monde extérieur, eh bien, il y a ce besoin de ce retour à soi, en fait. Et en fait, voilà, retrouver ce chemin qui fait qu'on redécouvre un sens à sa vie, qu'on se pose les bonnes questions, eh bien, ça met du temps. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, et je pense que encore heureusement que quand on passe par là, on ne sait pas parfois que ça prend autant de temps.
Ouais.
Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont passées par cette case burn-out ou que j'ai accompagnées, finalement, elles se sont rendues compte qu'elles se sont redécouvertes au travers de cette expérience, et la plupart disent merci au burn-out. Alors, c'est ce qu'elles disent. C'est dommage d'avoir dû passer par là pour redécouvrir une autre vie, en fait, ou la réinventer d'une manière qui va plus leur correspondre, en fait.
Et justement, est-ce que tu as des pistes pour bah, éviter d'arriver à ce point-là, finalement, de réussir à, tu vois, si effectivement on peut y avoir une perte de sens, ça, j'en parle très souvent, hein, le sens, quand on, bah, quand on n'en a plus, on finit par faire par machinalement agir dans son quotidien, et puis bah, on est de moins en moins satisfait, puis même ce qu'on fait bien, bah, finalement, ça n'a plus trop de saveur. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir besoin finalement d'avoir un choc aussi violent pour changer, parce que finalement, c'est ça que tu nous dis, c'est que le burn-out, c'est bah, c'est un peu c'est le coup de pied dans la porte, quoi. T'as pas voulu m'ouvrir, maintenant je rentre. Comment on fait pour accueillir très gentiment, gentil monsieur, du changement sans qu'il ait besoin de nous casser la porte?
Alors, moi, je pense que honnêtement, on le sait. On le sait, je dirais longtemps à l'avance qu'on a besoin de changer quelque chose. Mais souvent, on reste un peu dans ce confort parce que on a peur de perdre une certaine sécurité. On veut se rassurer. On va se dire. Non, mais finalement, cette situation convient, mais on sait en notre fort intérieur qu'il y a un besoin d'un, que ce soit un renouveau ou que ce soit, ou qu'on perd le plaisir. Ça, pour moi, c'est une chose, c'est un signe très important, qu'on ne retrouve plus le plaisir de faire dans la vie, dans notre vie, professionnel, mais personnel, hein, parce qu'on est un tout, on ne peut pas séparer, on ne peut pas dire que l'individu est différent dans une situation d'une autre. Non, c'est un tout. Donc, une chose qui va se passer dans notre sphère privée va affecter la sphère professionnelle et vice-versa. C'est normal. Et quand on ne s'y retrouve plus dans cette. Voilà, quand on a perdu ce plaisir-là, ou la joie, ou voilà, ce qui fait un peu notre essence, je crois qu'il faut se poser vraiment les questions. Et on sent ces choses-là. On sent que, il faut qu'on change quelque chose pour justement ne pas en arriver là. Mais parfois, c'est plus facile de cacher sous le tapis et de ne pas prendre les choses en main, parce que c'est difficile. Parfois, ce n'est pas évident de se dire, bon, ben, est-ce que je dois changer est-ce que c'est le job, ou qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour faire en sorte que j'y reprenne du plaisir? C'est pas toujours simple.
Ouais, puis j'ai l'impression aussi que il y a une certaine, peut-être une certaine honte, tu vois. Les gens, bah, ils se disent, mince, enfin, ils vivent ça comme un échec. Donc, ils n'ont pas trop envie de se l'avouer ni de l'avouer aux autres, parce que finalement, bah, le moment où tu dis stop, parce que justement, tu dis qu'il faut se recentrer sur soi, bah, ça prend de l'énergie, du temps. Donc, ça veut peut-être dire que bah, tu prends moins de responsabilités au travail, ou alors tu abandonnes un truc que tu faisais à côté, un super gros projet qui te prenait vraiment trop de temps et trop d'énergie, du coup, tu dois l'arrêter. Et bah, justement, avec toute un peu la pression sociale qu'il y a, finalement, c'est presque plus facile d'être à moitié mort dans son lit que de réussir à dire de soi-même, bon les gars, c'est bon, j'arrête là, j'en peux plus, parce que je sais pas, peut-être qu'il y a peur de paraître fragile ou autre. Est-ce que ça, tu le constates souvent, et comment est-ce qu'une personne peut se dire, bon là, je sens que c'est pas parce que je suis entre guillemets une chochotte ou minable que je dois arrêter, mais c'est vraiment parce que c'est nécessaire, et du coup bah, je dois aussi le communiquer aux autres pour qu'eux le sachent et ne me mettent pas sans arrêt sur le tapis bah, des nouvelles missions, des nouveaux trucs à faire, parce que là c'est déjà trop, donc faut un peu calmer le jeu.
Oui, ce que tu viens de dire là, c'est très juste. Alors d'un côté, tu as les injonctions de la société qui sont parfois assez dures, parce qu'il faut être fort, il faut être. Enfin, on a tous ces idéaux dans la tête, et pourtant, en fait, et à côté de ça, eh bien, on a la personne qui est. On est en tout, on est fort et on est fragile, on est toute cette complexité. Et voilà. Excuse-moi, j'ai un peu perdu le fil de ta question.
C'est jouer justement comment faire pour savoir finalement que c'est le moment d'arrêter, et puis peut-être je sais pas, est-ce que il y a une manière un peu plus facile pour pouvoir, tu vois, l'annoncer aux autres et dire bon là franchement c'est bon, faut que je me retire un peu, parce que souvent aussi quand on arrive en burn-out, bah on a un peu perdu notre confiance, on sait plus trop dire non, et c'est souvent ça qui nous mène là, et justement bah, on se dit, là, il y a un pas de plus, c'est le précipice. Comment on fait pour ne pas le faire, justement?
C'est ça. Là, je pense qu'il y a la vraie question du connais-toi toi-même. Moi, je pense que c'est super important d'être dans une ouverture d'esprit et de savoir dire non aux autres, et de leur faire comprendre, en fait, qu'on a atteint une limite. Et que s'ils ne peuvent pas le comprendre, je pense qu'à ce moment donné, il faut se dire, voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire, maintenant je vais penser à moi, et c'est justement poser ce regard sur soi et essayer de, comment dire, de sortir de ce regard de l'autre, parce que si on reste prisonnier de ça aussi, on reste dans une sorte d'emprise quelque part, et ça va être de plus en plus difficile de se détacher, et on va continuer à assumer quelque chose qui ne nous convient plus. Donc c'est vrai que apprendre à poser ses limites, c'est essentiel. Parce que c'est vrai que certaines personnes sont très généreuses et donnent beaucoup, mais c'est ce trop-là qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir une rupture. Une rupture, et surtout une rupture de valeur. Pour moi, ça, je pense que c'est vraiment... C'est vraiment très important. Et à un moment donné, on va sentir que comme il n'y a plus d'écoute de l'autre côté, ça peut être ça ou ça peut être un autre facteur, mais on va sentir qu'on est vraiment plus aligné avec, par exemple, le poste auquel on occupe, pour l'entreprise ou la personne avec qui on travaille, peu importe, mais qu'il y a un lien qui s'est brisé. Et je pense que ce point-là, il est important. Et quand on sent ça, il faut vraiment pas passer à côté de ce sentiment. Il faut aller se dire, est-ce que j'ai envie de quoi j'ai envie dans ma vie? Quelles sont les valeurs que je cultive moi, que j'ai besoin de retrouver dans mon travail? Je ne les trouve pas là. Où est-ce que je peux aller les trouver? Je pense que c'est comme pour toutes les relations entre les individus, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Je pense que ce qui fait que les liens accrochent et qu'ils durent dans la continuité, c'est que la personne que j'ai en face a les mêmes valeurs que moi. À partir du moment où on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça ne peut pas marcher.
Et souvent, ce que je remarque, c'est que les personnes qui sont allées un peu trop loin, elles ont senti les choses en avance, comme tu le dis, parce que au bout d'un moment, même avant le burn-out, il y a des signes qui sont quand même de plus en plus forts. Oui. On est obligé de les voir. Mais le problème, c'est qu'elles ont leur identité qui est fortement liée à leur travail. Donc, pour elles, c'est très important de bien faire, en fait. Pour elles, leur capacité à faire des choses et à les faire bien, c'est vraiment lié à leur identité. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça que que le burn-out est vécu comme un tel échec. Et par exemple, tu dois abandonner ton poste, quitter ton poste pendant quelques temps. C'est hyper, hyper difficile. Du coup, toi, est-ce que, je sais pas, tu recommandes d'essayer de te redéfinir autrement? Mais du coup, comment on fait? Quel est ton point de vue là-dessus?
Alors, je pense que là, tu abordes un sujet qui est vraiment central dans ce thème aussi du burn-out, qui est la question de l'identité. Alors, je pense qu'il faut... C'est pour ça que pour moi, je parle beaucoup du retour à soi, mais qui me semble vraiment quelque chose d'un thème central sur ce sujet-là. Justement, parce que si notre identité est uniquement collée à une fonction qu'on occupe, forcément, si le jour où ça tombe par terre, le jour où ça ne tient plus, eh bien, c'est une part de notre identité qui aussi n'existe plus. Et ça, c'est un choc pour l'individu, puisque quelque part, il se définissait uniquement par ça. Il va se présenter en société, même en dehors de son travail, il se présente comment ? Je suis un tel, je fais ci, je fais ça. Et du coup, il y a cette question d'identité qui est très forte. Mais à partir du moment où on a d'autres centres d'intérêt dans notre vie et qu'on peut se définir non seulement par ce qu'on fait, mais par les autres choses qu'on met en place dans notre vie et qui nous enrichissent notre vie, quand un des piliers tombe, il y a quand même les autres qui vont maintenir la maison debout. Donc, je pense que c'est aller vraiment se découvrir soi, c'est se dire, OK, aujourd'hui je suis ça, mais demain je peux être autre chose, et c'est OK, parce qu'on a tellement de compétences et tellement de talents en nous que je pense que c'est même très limitatif de se définir uniquement par ce qu'on fait au travail. C'est vrai que...
Pour toi, finalement, une manière vraiment préventive d'être bloqué par le burn-out, finalement, d'être un peu pris au piège parce que notre identité est trop forte dans notre travail, ce serait d'avoir justement un équilibre de vie sain, quoi, avec plusieurs activités qui ont une certaine importance pour nous et qui nous...
Absolument.
Des activités peut-être dont on est fier aussi, je ne sais pas si ça rentre en compte, mais des activités, tu vois, où quand tu es avec tes amis, tu vas en parler, tu vas dire « Ah ouais, tiens, j'ai fait ça, machin », enfin, tu vois.
Exactement, parce que en fait, finalement, toutes ces activités, ces choses que tu dis non, mais ça, je pourrais jamais faire, et tu te dis mais pourquoi je ne pourrais pas le faire? En fait, on peut tout faire, c'est une question d'envie. Mais plus on intègre des choses positives dans notre vie qui nous mettent en joie, quand à un moment donné, il y en a une de ces choses qui ne marche plus pour nous, il y a une structure plus équilibrée qu'on a construit et qui va nous permettre de tenir, de retrouver plus facilement l'équilibre. Tandis que si on a posé tout notre regard que sur une seule chose, ça va rendre, on va dire, le déroulement beaucoup plus compliqué. C'est une histoire aussi de trouver ce plaisir. On parle beaucoup de bonheur au travail ou de bien-être. Je pense que le bonheur, c'est quelque chose de personnel qu'on va alimenter, quotidiennement avec tout ce qu'on peut faire, que ce soit bien manger, faire du sport, faire de la musique, que sais-je, toutes ces choses-là qui vont nous aider à cultiver un état de, cet état de bonheur. Mmh. Et le bien-être, c'est vraiment se sentir confortable dans ce qu'on fait, au travail, d'avoir les conditions nécessaires. Et ça, ça va aussi cultiver une atmosphère un peu, on va dire, plus équitable, plus... voilà, où on va être écouté, où il va y avoir une interaction qui fait que on va vivre mieux, on va vivre mieux ensemble, en fait, c'est ça.
Et toi, justement, qu'est-ce qui t'a permis de sortir du burn-out, finalement, pour de passer de cet état où tu es complètement fatigué, épuisé, puis tu n'as plus trop de sens dans ta vie, à justement maintenant où ça va mieux, où tu es en forme, tu as même écrit un livre, tu vois, il y a plein de nouvelles choses qui se sont mises en place. Comment ça s'est passé, cette transition, pour toi ?
Ah oui, alors, ça a mis du temps et c'est vrai que il y a eu un jour et je me suis posé une question qui, en fait, qui a tout changé. Je me suis dit, est-ce que je veux que ma vie ressemble à ça, en fait ? Parce que j'étais vraiment pas bien. À ce moment-là, c'était à peine si je sortais. En broie du noir, quand même, c'est vraiment... C'était un moment très dur et je me suis dit, mais à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble, en fait ? Et là, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire quelques ateliers, j'ai commencé à faire de nouvelles rencontres et un jour, j'ai rencontré deux amis, je leur ai un peu raconté ce qui se passait parce que c'est ça, je pense qu'il faut être bien entouré et ne pas avoir peur d'en parler autour de soi. Et vraiment, c'est ce qui m'a aidée, c'est que je me suis pas fermé la porte en disant j'ai honte, il m'arrive ça. Non, je me suis dit ok, il m'arrive ça. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'idées parce que voilà, parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais parce que c'est toujours plus facile de voir les choses pour les autres que de les voir pour soi.
C'est clair.
Et du coup, voilà, ces deux amis m'ont présenté une personne et qui m'a vraiment aidée à. Qui est coach et qui m'a vraiment aidée à voir les choses autrement. C'est d'ailleurs elle qui a identifié chez moi ce côté écriture. C'est vrai que le fil de la vie, le quotidien, je n'avais pas forcément envisagé que ça se passe dans ma vie, mais c'est vraiment très intéressant comment les choses se sont passées. Après, j'ai découvert un groupe de parole sur la souffrance au travail. Et là, ça a été aussi... ça m'a vraiment aidée à me structurer. Mmh. Et à partir de là, assez vite, de fil en aiguille, parce que je voulais tellement sortir, tellement construire une vie différente et qui me correspondait finalement. Je n'avais pas du tout envie de passer mon temps triste, de passer mon temps... d'être quelqu'un que je ne voulais pas être, en fait. J'avais envie d'aller chercher le meilleur de moi et de donner le meilleur de moi aux autres. Et voilà. Ah, mais alors, ça prend du temps. On ne peut pas dire que... parce que je pense que c'est aussi ce temps de la découverte, de retrouver un sens à sa vie. Comment je vais faire ? Quels sont les éléments ? Quelles sont les ressources que j'ai ? Déjà avec moi, que je peux réutiliser. Comment est-ce que je peux me redécouvrir, en fait? Voilà, mon identité, je l'avais basée là-dessus, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma vie qui peut m'aider justement à la repenser autrement? C'était vraiment un questionnement assez profond, mais qui m'a énormément aidée. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu écrire ce livre où je partage toutes ces idées, ou comment changer la perception de la vie, comment arrêter de voir les choses comme des échecs et se dire non, en fait, ça m'est arrivé parce que quelque part, il fallait que j'en tire quelque chose pour moi. Mmh. Parce que pour moi, je pense que rien ne nous arrive par hasard dans la vie. C'est qu'il y a bien une raison, on doit bien essayer de comprendre quelque chose d'autre pour partir sur que ce soit une nouvelle voie ou pas. Mais en tout cas, à l'intérieur de soi, oui, il y a un cheminement, une évolution personnelle, je pense.
J'ai l'impression que dans ce que tu racontes, l'aspect social et finalement inspiration qui vient des autres aussi, parce que quand tu es en burn-out, tu n'as pas forcément les idées hyper claires, du coup avoir des inputs extérieurs a l'air de t'avoir bien aidé.
Oui.
Et du coup, ça me fait aussi penser à tout cet univers du coaching et tout ça. duquel tu fais partie, duquel je fais partie. Et d'ailleurs, bah, toi, tu t'es fait accompagner. Moi, je me fais aussi accompagner. Je trouve que c'est vraiment un élément qui permet d'avancer plus vite parce que, comme tu dis, on voit beaucoup plus facilement les choses chez les autres que chez nous. Ou avoir quelqu'un qui nous dit, bah, tiens, regarde, là, franchement, tu déconnes. Et pour lui, ça lui semble évident, alors que pour nous, pas du tout. Et toi, quel rôle tu donnes spécifiquement à la présence des autres, voire du coaching qui t'a permis de justement de sortir de l'ornière, et où est-ce que tu penses que t'en serais si t'avais pas eu ça, enfin tu vois un peu le rôle que ça a eu?
Moi, je pense que le regard de l'autre, il faut prendre les choses avec un certain recul, mais ça nous aide à mieux nous comprendre et à mieux voir où on en est aussi. Non pas se dire je pars sur une reconnaissance extérieure, non. Mais écouter ce que les gens nous disent, parce que quelque part, ça reflète là où on est aussi, en ce sens-là. Et à ce moment-là où je faisais beaucoup d'ateliers et que les gens me disaient, mais tu as un parcours incroyable, tu as ci, tu as ça. Et moi, je ne voyais plus tout ça chez moi. Et à partir du moment où j'ai commencé à me dire, tiens, mais les gens, ils voient ça chez moi, mais c'est incroyable. Moi, je ne voyais plus ça, en fait. Parce qu'on a tous des défauts, des qualités. Enfin, tout ça, c'est normal. Il n'y a pas de... Ça fait partie de ces êtres humains, quoi, tout simplement. Mais ces regards avec beaucoup de bienveillance nous aident vraiment à reconstruire une image plus... plus facilement une bonne image de soi, en fait.
Ouais.
Parce que pour en arriver au burn-out, c'est qu'il y a eu aussi des choses qui ont fait que l'estime de soi n'était plus là, la confiance n'était plus là. Voilà, il peut y avoir des humiliations, du harcèlement. Enfin, il y a quand même des facteurs parfois assez lourds qui font que la personne se retrouve dans un état de... dans un manque de confiance totale en qui elle est, et être accompagnée par quelqu'un ou avoir des regards bienveillants, eh bien, ça va justement poser les bons mots aux bons endroits pour pouvoir développer une nouvelle image de soi, être plus en confiance avec qui on est, puisque quelque part, ça confirme un petit peu aussi là vers où on peut aller. Quand les regards convergent vers un certain endroit, on se dit, bon, quelque part, en fait, il faut que je commence à reconnaître que j'ai ça chez moi.
Ouais.
Et ça, je pense que c'est justement cet effet de groupe, même s'il est éparpillé, parce que parfois, des personnes qui ne se connaissent même pas, mais qui te font des retours, eh bien, ça aide vraiment à se voir autrement, en fait, c'est ça.
Ouais, parce que finalement, tu arrives à un stade où tu as vraiment tellement plus confiance dans toi et dans ton regard que c'est celui des autres qui peut te définir. Et certainement aussi bien d'un point de vue négatif que positif. Donc justement, en créant un entourage, comme tu dis, avec des gens soit qui passent par la même chose, soit avec des amis bienveillants, ça permet d'avoir finalement les bonnes personnes qui nous donnent leur regard, du coup qu'on prend temporairement pour identité. Et puis, par la suite, ça nous permet de se reconstruire sur des bases positives en prenant nous-mêmes nos propres critères.
Oui, parce qu'il y a aussi l'effet des pensées, des schémas de pensée qu'on a. C'est-à-dire que quand on est en burn-out, il y a un schéma de pensée tellement négatif qui est installé que c'est difficile justement de sortir de ça. Et quand il y a ces regards bienveillants ou des personnes qui t'accompagnent, qui commencent à te faire voir autre chose. Donc, en fait, quelque part, il y a ce registre de pensée positive qui commence à se recréer à travers ça. Et plus tu reconnais ces qualités chez toi, et bien plus elles vont s'installer et plus tu réussis à, on va dire, à switcher d'un mode de pensée à un autre. Et c'est ça qui est vraiment essentiel là-dedans. Et puis, le fait de faire du sport, le fait de bien se nourrir, enfin, tous ces éléments qui semblent finalement banals, eh bien, ça, ils ne le sont pas. Parce que c'est vraiment dans ce côté de se prendre à nouveau en main, de prendre conscience de qui on est, de la personne qu'on est, qui vont faire qui vont justement nourrir ce schéma de pensée positif et à un moment donné, tu te retrouves dans un autre état d'esprit, beaucoup plus positif, beaucoup plus joyeux, parce que finalement, tu dis, voilà, c'était une épreuve, j'ai énormément appris de cette épreuve-là, et à partir de là, je peux en effet le prendre comme une opportunité de transformation intérieure, en fait.
Et justement, est-ce que tu as des, on va dire des outils, des sortes de, je sais pas, des routines, par exemple, de prédilection que tu recommandes aux gens ou que tu as décrites dans ton livre qui peuvent être appliquées finalement, enfin, pas forcément facilement, hein, les gens qui sont là savent qu'il y a besoin de répétition notamment, donc même si les choses sont faciles, bah, les répéter, ce n'est pas facile. Est-ce que ouais, tu as ces outils, certains outils qui toi soit qui toi t'ont aidé, soit que tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes et que tu aimerais recommander aux personnes qui peuvent nous écouter, qui sont peut-être en burn-out ou qui sentent que là ça commence à approcher et qu'il serait temps de faire quelque chose.
Et moi, je pense, alors, des outils, c'est donner vraiment des exercices là, c'est pas le plus simple, c'est-à-dire pour donner quelques conseils rapides, mais je pense que c'est vraiment se poser, numéro un, se poser les bonnes questions. Numéro deux, si on vit beaucoup d'émotions négatives, se dire, OK, si je vis beaucoup de frustration, de la colère, enfin, si on sent que cette humeur un peu maussade est installée depuis un moment, vraiment là, aller non pas perdre du temps, mais aller un petit peu et aller vraiment regarder ça. Parce que ça, c'est vraiment des signes très importants. Parce que la colère, elle cache quoi? Bah, elle cache des peurs derrière. Il faut les nommer, ces peurs. C'est la peur de quoi? La peur de la sécurité, c'est ou de l'insécurité. C'est quelles sont ces peurs-là? Quels sont les manques qui peuvent y être associés? Donc, c'est vraiment. D'où l'importance d'être accompagné pour ça, parce que c'est pas toujours évident de se poser tout seul les bonnes questions et d'aller un peu désamorcer tous ces nœuds émotionnels qui sont là, qu'on a besoin d'aller vraiment d'aller apaiser. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Les autres conseils que je pourrais donner, enfin, les choses qui m'ont beaucoup aidée et que sont en quelque sorte pour moi devenues des routines. C'est par exemple le sport et la méditation. Et donc, c'est vrai que ce sont des choses, par exemple, la méditation, ça aide beaucoup à calmer le mental. Donc, toutes ces pensées qui tournent en boucle parfois dans la tête, ça permet justement d'apaiser. Alors, est-ce que c'est facile au début? Non. Au début, quand j'ai commencé à faire de la méditation, je me disais, mais. Je vois aucun bénéfice, mais je me suis dit, mais je me lance le défi de le faire et je vais voir jusqu'où ça va mener. Et quelques semaines plus tard, je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose qui se passe. Parce que ça aide à diminuer aussi le stress. Enfin, voilà, c'est vrai que ça a commencé petit à petit à m'apporter vraiment des vrais bénéfices on va dire, à réguler l'humeur aussi. C'est vrai que c'est au fil du temps, je trouve que cette pratique, elle apporte vraiment beaucoup, ça coûte rien. Et alors, est-ce qu'on doit le faire vraiment tous les jours? Si on n'arrive pas à le faire tous les jours et qu'on a au début, on commence à pour le faire 2 ou 3 fois par semaine, c'est déjà super. 10, 15, 20 minutes, ça coûte rien. Et vraiment, au fil du temps, on voit les effets. Et l'autre chose, c'est le sport. Bon, tout le monde connaît bien les bénéfices du sport, mais c'est vrai qu'une pratique régulière, franchement, ça apporte beaucoup.
Ouais, c'est vrai que ça, j'ai souvent l'occasion de le recommander, mais surtout, ce qui est important quand on parle de sport, c'est de faire un sport qui nous fait vraiment plaisir. Parce que ça, t'en parlais du plaisir qui finit par disparaître quand on arrive au burn-out. Mais le plaisir aussi, ça montre à quel point le burn-out est grave, en fait, parce que le plaisir, c'est quand même le levier de motivation numéro un qu'on a. Ça veut dire que quand tu vas manger du chocolat, quand tu vas regarder un film au lieu de bosser, quand tu vas devant la télé, qu'est-ce qui est activé? C'est le plaisir. Même si toi, tu n'aurais pas envie de le faire, le plaisir est plus fort. Et donc là, justement, le fait de... Si tu fais un sport parce que Bah, je sais pas, tu es une femme, du coup, tu te dis, bon, ouais, je vais faire du jogging. Parce qu'on a le cliché de la nana qui fait du jogging. Mais si tu as envie de, je sais pas, de faire de la boxe, de faire n'importe quel sport, mais un truc qui te fait plaisir, et bah là, ça va tenir, ça va, tu vois, ça va vraiment
Absolument.
Se poursuivre quoi, sur le long terme.
Pour moi, là, tu touches sur un aspect qui, je trouve, est essentiel. J'ai commencé par faire du yoga parce que, enfin, je faisais pas du tout de sport, hein, mais alors
D'accord.
rien du tout.
T'avais arrêté ou t'avais jamais fait de sport ou alors suite
en
à
fait,
ta profession, ça avait mené à l'arrêt du sport?
non, alors j'en faisais pas
Ok.
et j'ai commencé à faire du sport, enfin à courir un petit peu de temps avant d'écrire le livre, en fait.
Ok.
Et quelques mois avant, je me suis dit, tiens, je vais courir. Je courais 10 minutes, 15 minutes, je ne courais pas beaucoup. Mais voilà, après, j'ai arrêté, j'ai un peu arrêté la course. Et une de mes amies m'a dit, tiens, viens au yoga avec moi. Ah, yoga, mais je n'aime pas du tout faire du yoga. Et j'y vais une semaine, et j'y vais 2 semaines, et j'y vais 3 semaines. Et en fait, c'est devenu une habitude, le yoga. Donc, je fais un yoga dynamique, de l'ashtanga, et j'aime beaucoup faire ça. Et bien sûr, il y a quelques postures qui sont un peu difficiles à faire. Je me disais, mais finalement, je pense que je manque de force. Donc là, je m'inscris à une salle de sport. Donc, pour qui ne faisait aucun sport, j'ai commencé par le faire. Une à deux fois par semaine, et puis de une à deux fois par semaine, je dis, ah tiens, et si j'essayais ça? En fait, c'est devenu un plaisir pour moi d'en faire. Et aujourd'hui, j'en fais quasiment tous les jours. Mais c'est parce que j'y trouve du plaisir, parce que je ne me force pas à y aller. C'est une activité que je fais qui me plaît. Mais le
Ouais.
jour où pour moi, ce sera une obligation, j'arrête, en fait. C'est simple.
Mais c'est vrai que
Je trouve
c'est
que.
hyper important ce que tu as dit parce que en fait, on voit tout le temps les gens, bah, notamment ceux, les gens qui sont coach, bah, c'est ceux qui s'expriment en fait. C'est eux qu'on la voit bah, parce qu'ils font des vidéos. Donc les gens, enfin, tu vois, moi quand je dis un truc, il y a plein de gens qui l'entendent alors que je ne représente pas forcément la majorité de la population. Et toi, ce que tu nous dis, bah, aujourd'hui je fais du sport tous les jours, mais on voit que ça a commencé par 10 minutes de jogging. Et moi, il y a des gens
C'est ça.
qui disent. Ah non, mais attends, 10 minutes de jogging, c'est trop la honte, je vais quand même pas faire ça. Mais non, c'est pas la honte, au contraire. C'est la méthode des petits pas. Et ça, tu as eu tellement raison de faire ça. C'est que pour que ce soit un plaisir, il faut que ce soit facile. Et en chier au jogging, avoir envie de vomir, c'est la meilleure idée pour arrêter et ne jamais prendre du plaisir comme tu as pu prendre du plaisir et ensuite que ça devienne une vraie habitude.
Voilà, et alors c'est marrant parce que dans le livre, je parle justement un peu du sport et
Ouais.
j'ai un de mes amis à la salle qui me dit, tiens, j'ai lu que tu courais parce que lui, il adore courir. Et il m'a dit, mais tu cours toujours? Je lui ai dit, non, non, j'ai arrêté de courir un peu avant de m'inscrire à la salle. Je lui ai dit, tu sais, à la suite de ça, je me suis inscrite à la salle et puis voilà. Mais j'ai partagé ça, j'ai partagé cette expérience-là parce que justement pour montrer que on peut courir que 5 minutes. Je courais 5 minutes, je m'arrêtais
Ouais.
5 et je courais 5 et je m'arrêtais. Je suis pas une coureuse de fond, mais je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose. Alors après, tu vois, je testais en fait, je testais. Est-ce que c'est ça qui me plaît? Pas vraiment. Donc je vais tenter autre chose. Donc oui, je pense qu'il faut pas avoir honte, il faut pas comment dire, se mettre des bâtons dans les roues, faut tester des choses. Il y a des choses qui vont nous plaire, il y a des choses qui vont pas du tout nous plaire, mais il faut se dire que dans celle qu'on va choisir, il faut vraiment y trouver du plaisir, sinon ça sert à rien, il faut changer. Si c'est le faire pour se forcer à le faire, non, le résultat, il va être inverse en fait.
Oui, c'est ça, c'est que si déjà t'approches du burn-out, tu te sens pas très bien, ça veut dire qu'il y a déjà une quantité de choses qui te plaisent pas dans ta vie. Alors il s'agit pas d'en rajouter encore plus, ça n'a pas de sens, quoi.
Exactement, c'est ça. Non, non, il ne faut surtout pas en rajouter. Il faut d'ailleurs enlever de. Je crois que c'est ça une chose très importante aussi avec le burn-out, c'est une sorte de ménage. C'est retirer tout ce qui ne nous fait plus, tout ce qui ne nous rend plus heureux, en fait. Que ce soit en termes de travail ou de relations ou d'activités qu'on fait qui ne nous plaisent plus, je crois que c'est aussi le moment de faire la part des choses, de faire le tri. Voilà, ça je garde, ça je ne garde plus dans ma vie. Ça c'est
Et ça,
vraiment quelque chose d'important.
C'est hyper intéressant parce que justement, c'est un tri qui est souvent très difficile à faire parce qu'on se dit, bah non, j'ai pas envie de froisser telle personne, j'ai pas envie de quitter telle association parce que blabla, je connais lui et lui et du coup, bah après, je vais plus les voir et tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a une réalisation, moi, que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, où à un moment dans ma vie, pendant 2, 3 semaines, j'ai eu comme le message, arrête de prendre les gens pour des cons. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand tu essaies de ménager les gens, tu les prends pour des cons. Parce que toi, ça ne te fait pas plaisir d'être avec eux, mais pour faire bonne figure, machin, tu vas être sympa, tu vas leur dire oui, t'inquiète pas, machin, tu vas faire des activités, alors que toi, ça te ronge de l'intérieur. Et les gens qui t'aiment vraiment, les gens qui sont que tu dois vraiment garder avec toi, c'est des gens qui tiennent à ce que tu sois bien. Donc finalement, qui ne tiennent pas à ce que tu te sacrifies pour eux tout le temps. Ça, c'est vraiment l'opposé de ce qu'il faut faire. Et c'est tellement important de se dire au bout d'un moment, en fait, si tu essaies de ménager les autres, c'est pas de la générosité, c'est d'une part de la lâcheté, et puis d'autre part, c'est d'une stupidité sans nom, parce que tu prends les gens pour des cons, donc c'est pas hyper sympa. Et puis en plus, toi, tu te mets dans la merde tout seul, parce que finalement, les gens vont avoir des attentes vis-à-vis de toi, ils vont se dire, bah, ça lui plaît, tu vois, il continue depuis des années, alors qu'en fait, toi, bah, ça reflète pas du tout ta pensée. Je vais revenir sur un truc. C'est que tu parlais de se poser les bonnes questions. Et ça, c'est un thème qui revient très souvent. Enfin, moi, je parle souvent, tu sais, de la vision, de définir exactement quels sont les critères de réussite, parce que si tu ne les connais pas, la réussite, c'est pareil pour personne, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, toi, comment ça se matérialise pour toi, se poser les bonnes questions? Est-ce que c'est un peu une tâche de fond et qui évolue au fur et à mesure? Ou alors, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bon, là, je me pose. J'éteins tout, je me mets avec une feuille et un crayon et je me pose des questions. Comment t'as fait ce travail-là pour toi?
Alors, tu vois, je vais enchaîner sur ce que tu viens de dire et justement au niveau des relations, en te donnant un exemple de comment se poser les bonnes questions. Par exemple, quand on sent qu'une relation, elle est toxique, c'est-à-dire qu'elle ne nous apporte plus de plaisir et qu'elle nous met dans des émotions de colère, comme tu disais il y a peu. Tu disais, bon, on prend les gens pour des cons, mais c'est plutôt, je pense que... Je ne sais pas parfois qui on n'a pas envie de froisser. Est-ce que c'est les autres ou est-ce que c'est soi? Mais quand une relation me fait vivre plus de frustration que de joie ou que de plaisir, c'est là que je vais me poser la bonne question. Est-ce que je dois garder cette personne dans ma vie?
Et attends, je t'arrête juste 2 secondes. Ce qui est hyper
Oui,
important dans ce que
vas-y.
tu as dit, c'est que tu as dit c'est la relation qui est toxique. Ça ne veut pas dire que, quand tu dis ça, ça ne veut pas dire que la personne en face est méchante. Ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne. Ça veut juste dire que la relation que vous avez entre vous, vous avez beau être 2 personnes formidables, la relation ne passe pas. Et du coup, le fait de, bah, comme tu allais l'expliquer, de séparer les choses, ce n'est pas une insulte envers la personne, c'est juste une préservation de toi et de l'autre personne.
C'est ça, c'est juste se dire qu'est-ce qui me fait vibrer dans ma vie? Est-ce que cette personne m'apporte du positif? Pourquoi est-ce que je dois la garder? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me détacher de cette relation? Parce que c'est ça qui parfois fait une relation toxique, on est dans une forme de dépendance émotionnelle, d'où qu'on maintienne des relations ou des activités qui ne nous procurent plus de plaisir, mais on est dans une forme de dépendance émotionnelle et on a du mal à se détacher de ça. Et en fait, se poser les bonnes questions, c'est se dire, OK, qu'est-ce que ça m'apporte de bon, mais qu'est-ce que ça ne m'apporte pas de bon? Ah, ça, la balance pèse plus du côté des émotions négatives et des frustrations. OK. Est-ce que je dois vraiment le garder ça? Est-ce que je veux vraiment garder ça dans ma vie? Ok, non, je ne veux pas garder ça dans ma vie. Ok, comment je fais pour me détacher de ça? Pour essayer de... Est-ce que ça va vraiment me causer de l'insécurité de ne plus avoir ça dans ma vie? Si ça ne m'en cause pas, ok, comment je fais pour couper le lien, par exemple, si c'est ça la solution. En fait, pour moi, c'est ça, se poser les bonnes questions, c'est vraiment aller au fond du sujet. Pour désamorcer, parce que tant qu'il y a des peurs, on n'arrive pas à passer le cap, on n'arrive pas à faire les choses. Tant qu'on n'a pas compris ce qu'on y gagne et ce qu'on y perd à avoir cette relation-là, eh bien, que ce soit une relation ou une activité, peu importe. Mais c'est vrai que ça va être difficile d'aller vers du nouveau. On ne peut pas aller vers quelque chose de nouveau en gardant, des sortes de poubelles émotionnelles. Voilà, il faut vraiment faire le tri, il faut faire du ménage, Il faut nettoyer, garder ce qui est bon pour nous et faire le deuil, parce que c'est ça aussi, c'est ça la question, c'est un peu faire le deuil de certaines choses. Pour pouvoir avancer, il faut savoir choisir, c'est toujours perdre quelque chose et gagner quelque chose. Voilà. Et la perte implique une certaine forme de deuil, surtout quand c'est important pour nous.
Ouais.
Mais voilà, ça m'est aussi arrivé de me dire, voilà, cette relation, j'aime beaucoup cette personne, mais finalement, elle me confronte tout le temps à des sentiments de frustration. Et ça, c'est dur à vivre. Est-ce que je veux vraiment garder ce lien? Parce que même si on aime beaucoup quelqu'un, quelque part, quand on est tout le temps dans de la colère, dans de la frustration, c'est pas facile. Donc,
ouais.
Donc c'est tout ce travail-là qui est super important à faire. Et on ne peut pas faire l'économie de ne pas le faire. C'est essentiel, justement pour construire quelque chose de nouveau dans notre vie.
Ouais, donc finalement, quand tu dis poser les bonnes questions, c'est réussir à finalement peser le pour et le contre de chaque situation et d'aller au fond des choses, de se demander bah, pourquoi ça se passe comme ça et puis de trouver la solution aussi, hein, parce que tu parles bien sûr de est-ce qu'il faut bah, couper ou pas, comment on fait.
Oui, parce qu'en fait, tu vois, c'est quelque part désamorcer des charges émotionnelles. Parce que tout ce qui nous arrive, on va l'associer à une émotion. Et tant que l'émotion, elle est trop forte, tant que il y a un poids important, c'est qu'il y a un impact sur nous. Et obligatoirement, si on veut avancer sans garder trop de bagages émotionnels derrière nous, eh bien, il faut vraiment poser notre regard sur ce que cette situation ou cette personne nous fait vivre, en fait. C'est vraiment là le sujet. Parce que, tu vois, quand tu ne le fais pas, tu avances, mais il y a quelque chose derrière qui est resté coincé, qui est resté bloqué, il y a une peur qui n'a pas été vécue, et du coup, tu avances, oui, mais quelque part, c'est toujours là. Ouais. Donc, c'est
attends,
vrai.
Je vais juste brancher mon ordinateur.
Vas-y.
Vas-y, vas-y, continue. C'est bon.
Donc voilà, je pense que c'est vraiment essentiel d'aller se comprendre au travers de ces expériences. Parce que finalement, c'est ça, notre vie. Oui, tu parlais aussi de la réussite, mais ou de l'échec. Tu vois, encore une fois, ça reste des notions subjectives. La société va te dire, ou Hollywood va te dire, la notion de la réussite, c'est ça. Et en fait, est-ce que c'est vraiment ça pour toi? Ça, c'est le genre de question qu'il faut se poser. Pour moi, c'est quoi la réussite? Ok, pour moi, c'est juste avoir un emploi stable, un appart. Enfin, je sais pas. Vis-à-vis de chaque personne, ça va être une notion différente. Mais c'est sortir de cette comparaison à l'autre.
Ouais.
Je trouve que ça, c'est vraiment essentiel. Ok, l'autre, il a sa grande voiture, sa maison de campagne, machin. Est-ce que c'est vraiment ça qui me rend heureux, moi? Si ce n'est pas ça, ok. Donc, lui, il a sa notion de réussite, moi, j'ai la mienne. Voilà. Je pense aussi que c'est vraiment cette comparaison que les gens ont les uns vis-à-vis des autres crée aussi de la frustration. Et il faut vraiment aller regarder. Qu'est-ce que c'est cette notion de réussite pour moi? Qu'est-ce que c'est de l'échec? Est-ce que c'est vraiment de l'échec? Ou est-ce que c'est plutôt un apprentissage? Parce que vraiment, c'est quoi un échec dans la vie, finalement? On peut presque se poser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit vraiment un vrai échec? Je pense qu'on apprend toujours de tout ce qui nous arrive. C'est presque être vraiment se dire « t'as échoué à faire ci, t'as échoué à faire ça ». Voilà, il faut aller regarder qu'est-ce que c'est que cette notion d'échec. Imagine, tu as, je ne sais pas, fait une activité que tu n'avais jamais faite. Ok, tu ne l'as pas fait peut-être de la meilleure des façons, mais tu t'es quand même, tu as osé faire quelque chose que tu ne sentais pas capable. Ça n'était pas parfait. Par exemple, jouer du piano, tu démarres à jouer du piano, tu ne vas pas être Mozart du jour au lendemain, mais tu oses faire le pas de commencer à aller apprendre les notes de musique, comment faire. Donc, donc je pense vraiment qu'il faut... En fait, c'est remettre les bonnes idées à leur place, en fait. ou mieux se structurer. Voilà, c'est, je pense que c'est ça. À partir du moment où tu es en confiance avec toi et que tu sais où tu bases ta vie, quelles sont les bonnes notions pour toi, que ce soit d'échec, de réussite, de ce qui te rend heureux ou qui te donne du plaisir dans la vie, tu crées une forme de force intérieure qui va te faire aussi éviter de tomber, par exemple, en burn-out.
Justement, j'ai une petite, on va dire, un petit cas pratique à te proposer. C'est que moi, j'ai une foule de personnes qui vient me voir et qui a, en fait, qui est déjà surchargée, qui est déjà vraiment un quotidien très bien rempli, si ce n'est déjà un peu trop, tu vois, où ils commencent à sentir des signes de fatigue, du stress plus qu'avant, etc. Et puis tout d'un coup, bah, je sais pas, avec une vidéo sur Internet, un ami qui leur en parle, ils découvrent un super projet et ils se disent, tiens, c'est génial ce projet, ça va être hyper intéressant. Et du coup, ils ont envie de se lancer, en plus de tout ce quotidien chargé qu'ils ont déjà. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais pour cette personne, justement, qui a déjà ce quotidien chargé et qui voit une sorte de nouvelle opportunité de se réinventer dans son quotidien?
Je pense qu'il faut faire la part des choses, voir ce projet me semble intéressant. Qu'est-ce que je peux dégager comme temps dans mon quotidien pour me plonger plus dans cette idée-là? Parce qu'on peut toujours faire ça. Je ne crois pas au fait qu'on est uniquement surchargé et qu'on ne peut pas se défaire de ça. On peut se défaire de ça. On peut prioriser, dire ou alors, par exemple, dire aujourd'hui je m'occupe de ça et de ça, et demain d'autres. Il faut faire des choix. Ça, je pense que c'est quand même la chose la plus importante, ce que je disais tout à l'heure. On veut choisir quelque chose de nouveau. Ok, qu'est-ce que je peux lâcher prise de quoi? Parce que assez souvent, on est dans une forme de contrôle. On veut tout contrôler, tout maîtriser. Et c'est pas toujours possible. Donc, je pense qu'il faut être dans une forme de souplesse intérieure et de se dire, OK, si je veux introduire quelque chose de nouveau, il va falloir que je fasse des concessions ou que je fasse autrement. Ça, c'est essentiel. On ne peut pas en rajouter quelque chose de nouveau dans quelque chose qui est déjà trop plein. Sinon, c'est le
Ouais, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime bien
burn-out.
dire, c'est qu'en fait, on utilise déjà notre temps à 100%. Aujourd'hui, tu as 24 heures, demain, tu auras 24 heures, que tu as un nouveau projet ou pas, c'est toujours le même temps. Du coup, aujourd'hui, même si, je sais pas, tu procrastines 5 heures par jour, bah, ton temps est déjà utilisé à 100%, en fait. Donc, comment est-ce que tu vas réussir à enlever quelque chose pour rajouter? Parce que souvent, c'est un petit peu le défaut de tous ces nouveaux trucs. On dit, ouais, vas-y, tu peux faire ça en plus dans ta vie et ça va être génial. Sauf qu'en fait, il faut soi-même avoir un petit peu le recul et se dire, bon, bah, je vais arrêter ci ou je vais passer moins de temps à ça. Même si, comme tu le disais, hein, ça peut être un peu un crève-cœur quand on n'a que des choses qui semblent importantes pour nous.
C'est ça, mais peut-être que là où on peut. La question peut-être à se poser, c'est qu'est-ce que je peux gagner qui va m'intéresser avec ce nouveau projet? Quel est le but que je peux atteindre avec ça? Et ça va donner une motivation justement pour lâcher prise de quelque chose qui finalement ne nous apportait pas plus que ça. Je pense que c'est toujours, tu vois, aller regarder ce bénéfice que cette nouvelle activité ou que sais-je va apporter. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de qui m'est favorable? Qu'est-ce que je peux. Est-ce que ça va m'aider à m'épanouir dans ma vie? Oui, alors c'est beaucoup plus facile de prendre une décision quand on voit assez clair sur ce que telle ou telle chose peut nous apporter aussi ou qu'on peut apporter aux autres. Ça peut être justement faire une activité bénévole et on va se sentir très utile. Il y a des gens qui le font et qui se sentent super bien avec ça. Après, oui, c'est du temps qu'ils vont consacrer à ça. Je pense qu'après, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que je veux consacrer beaucoup de temps? Combien de temps? Pour ne pas répéter les mêmes erreurs, c'est vraiment, je pense que calibrer toutes ces agendas parfois un peu chargés, mais qu'on peut trouver du plaisir dans ce qu'on fait, oui, ça c'est essentiel même. Sinon. Ça va être un peu plus compliqué en fait d'apporter voilà, le meilleur de nous, aux autres aussi.
J'ai vu que sur ton site, tu avais une petite section avec des livres qui défilent. Du coup, je me dis que ça va être important pour toi, la lecture. Et est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes souvent à des personnes qui sont justement dans une situation, dans une phase un peu plus difficile de leur vie, qui leur permettent je sais pas, soit d'éviter le burn-out, soit d'en sortir, ou des livres qui t'ont aidé toi personnellement pour ça?
C'est vrai que c'était une période où j'ai beaucoup lu aussi. Parce que je pense qu'on cherche des questions, enfin pas des questions, on cherche des réponses.
Ouais.
C'est plutôt ça. Mais en même temps, pour chercher des réponses, faut se poser des questions. Donc, donc oui, je pense que pour ceux qui aiment bien lire, j'aime beaucoup. Tu vois un peu les romans de développement personnel. Je trouve que ça c'est. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont préférer des livres un peu plus techniques. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait La formule du bonheur. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça parle justement des perceptions, enfin de changer notre perception de la vie. Et ça, ça m'a. Quelque part, ça allait déjà. Ça a touché plein de points que. À l'encontre, ça allait vraiment à l'encontre de ce que je pensais déjà. Sauf que là, c'était juste écrit. Et
Ouais.
Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Puis, oui, il y a d'autres personnes qui vont être plus dans le roman. Donc, je pense que tous ces romans de développement personnel, ils sont plutôt bien parce que ça permet, au travers d'une histoire, eh bien, de faire un certain cheminement, d'avoir des nouvelles idées. C'est comme si ça ouvrait un peu le champ des possibles.
Ouais, comme je sais plus comment ça s'appelle, c'est Votre nouvelle vie commence.
Voilà, exactement.
Quand
Exactement.
vous rendez compte que vous n'avez qu'une, je crois que c'est ça le titre du livre.
C'est ça, c'est ça.
C'est vrai que j'avais bien aimé ce livre, il était assez intéressant. Il a une couverture qui fait penser que. Enfin, qui a un style très féminin en fait, où tu te dis c'est vraiment un bouquin fait exprès pour les femmes,
mais non.
Mais non, en fait, c'est intéressant pour tout le monde.
C'est ça, c'est une histoire pour tous. Et je pense que oui, les livres, ils nous enrichissent beaucoup parce que finalement, il y a un autre avantage, c'est que quand tu lis, eh bien, tu es moins prisonnier de tes pensées. Prisonnier dans le sens où quand tu nourris ce schéma négatif, eh bien, le fait de lire ou d'écouter quelque chose, ça va te sortir pendant un bout de temps de ces pensées qui sont récurrentes. Et pourquoi pas t'aider à en construire des nouvelles. Et c'est en ça que je trouve que c'est vraiment bien justement de poser son attention ailleurs. Quand tu la poses ailleurs, forcément, après, tu gardes un esprit plus positif. Ça va t'aider autrement, en fait. Ça aide aussi à se concentrer.
C'est clair. C'est, oui, c'est
après,
à plein de niveaux différents, ça aide à se concentrer. C'est un peu comme la méditation aussi. Hein. On est aujourd'hui tellement distrait avec des notifications dans tous les sens.
Trop.
15 000
trop. J'ai tout
activités.
Désactivé.
Bravo,
les
tu.
Notifications. Allez, pas tout. Je garde encore le mail, mais il y a eu une période où je n'avais aucune notification. Je pense que quand tu es dans un niveau de trop plein, il faut justement garder. Je ne vois pas déjà, enfin, ce n'est pas très important les notifications. Il suffit que tu consultes de temps en temps, que ce soit tes mails ou tes réseaux sociaux, et tu as les informations. Mais c'est vrai que quand ça sonne de partout, ça bip de partout, il faut aussi un peu. Voir ce qui est important. Tu vois, encore là, on en revient toujours à cette notion de choix. Je pense qu'on est dans un moment de notre société où il y a tellement d'informations, tellement de réseaux, d'applis, de tout, qu'il faut regarder si ça nous est vraiment utile et de quoi on peut se passer ou comment on peut faire autrement, en fait.
Avant de te demander de faire un petit mot de la fin pour les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. D'ailleurs, bravo. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver facilement? Où est-ce que toi, tu aimes bien communiquer? Et puis, où est-ce qu'on peut trouver ton livre aussi, évidemment?
Oui, alors, pour mon livre, eh bien, on peut le trouver chez les libraires, Fnac, Amazon ou en ligne. Et s'il n'y est pas, il suffit juste de le commander. Et puis voilà, les gens peuvent me retrouver que ce soit sur mon site sortirduburnout.com ou surtout sur LinkedIn et Instagram. Voilà, c'est les
Ok,
deux
tes
réseaux
deux
que je
réseaux préférés.
privilégie, c'est ça, que je privilégie le plus en ce moment.
Super.
Voilà.
Bah, je mettrai de toute façon tous les liens en description comme d'habitude hein, pour que les gens puissent te retrouver très facilement. Bah, et du coup, est-ce que maintenant tu as un petit mot de la fin pour les personnes qui nous ont écoutés jusque-là, qui sont d'ailleurs du coup peut-être en burn-out, enfin, en tout cas ça les a intéressés cette discussion. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire qui est important pour toi?
Ce que je voudrais leur dire, c'est que je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est toujours voir les points positifs de la vie, porter toujours un regard positif, même sur les choses les plus difficiles qui peuvent nous arriver, parce que ce sont celles parfois qui sont les plus formatrices pour nous et qui vont nous apprendre justement des choses dont on n'avait pas conscience ou qui vont même nous apporter des choses assez surprenantes et nous ouvrir des chemins qu'on n'avait même pas envisagés. Alors en ça, je pense que c'est vraiment pour moi important de dire garder un état d'esprit positif, même si c'est difficile, c'est qu'il y a une bonne raison à tout ce qui vous arrive en fait.
Bah merci, c'est un très beau mot de la fin. Merci
Voilà.
beaucoup, Marilyn, d'être venue
Et
aujourd'hui.
merci à toi, Lucien, d'avoir pensé à moi pour cette interview.
Et bah avec plaisir. Bah, du coup, à la prochaine, Marilyn. Salut!
À la prochaine, merci, salut.